tu pars, le soleil tendre ses rayons d'or vers notre abri. N'entends-tu pas le vent répandre ses caresses et ses mélodies?
Salut, c'est Radio Radieuse.
C'est Radio Radieuse.
On se retrouve tous les deuxièmes jeudis du mois pour faire une émission qui parle d'antinucléaire, d'écologie et aussi de nous. Nous, c'est Broussaille et Rouille. Pour cet épisode, on avait envie de repartir des sujets qui nous touchent, nous parlent, qui frôlent nos vécus. Alors, on a décidé de parler d'écologie à travers notre prisme de personnes queer.
Il y a quelques mois, à Bure, on a eu une discussion en mixité choisie sans personnes cis-hétéro sur l'écologie queer. On s'est demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire, quelles étaient les pratiques qui relèvent de l'écologie queer. On a cherché comment ces deux luttes s'entrecroisent, à la fois dans nos vies et dans nos collectifs. Moi, perso, c'était des questionnements qui m'habitaient déjà, mais que je me posais de mon côté, solo. C'était la première fois que je pouvais les partager avec d'autres personnes queer.
Pour ma part, avant d'aller à cette discussion, je voyais pas vraiment ce que ça voulait dire, écologie queer. Et puis finalement, c'est venu poser un mot sur tout un tas de vécus. Jusque-là, c'était comme deux mondes qui cohabitaient côte à côte, mais que j'avais jamais réussi à penser ensemble aussi clairement. Et c'est venu éclairer pas mal de trucs. Cette discussion nous a donné des billes pour penser les choses. Alors on a eu envie de creuser, de prendre le temps d'y réfléchir, et finalement d'enregistrer un épisode là-dessus. Alors on s'est retrouvés dans une maison à la campagne, et on s'est dit que pour parler d'écologie, on serait bien dans la forêt. Mais les vents ont décidé autrement. Face au bourrasque qui s'engouffrait dans le micro, on a capitulé pour venir se réfugier dans une chambre sous les combles. Là, on est assis par terre. Les murs de chaussons orange, on a vu sur le potager, et une bâche claque dans le vent.
Alors pour commencer, on s'est dit que c'était important de se situer et de dire qui on était un peu plus et d'où on parle.
Du coup, salut, moi c'est Broussaille. Je suis une personne non-binaire qui utilise le pronom « yel ». Je suis une personne blanche, issue de classe moyenne et qui a fait des études supérieures.
Et moi c'est Rouille, je suis une personne non-binaire, je suis blanc, j'utilise les pronoms « yel » ou « il ». Et je suis de classe moyenne, j'ai fait des études supérieures, pareil.
Et du coup, Rouille, toi, personnellement, c'est quoi ton rapport à l'écologie? Comment t'y es arrivée? Et notamment, en tant que personne queer, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça influence?
Moi, je dirais que j'ai pas commencé à militer du tout dans des milieux écolos. Et plutôt, je suis rentrée dans le militantisme par des collectifs queer féministes et c'est que dans un second temps et très récemment que j'ai commencé un peu à militer avec dans des luttes écolo. Je dirais que ça a commencé à peu près au moment de la semaine des bombes atomiques qui a eu lieu à Bure en février de l'année dernière, donc c'était en 2020. C'était une semaine en mixité choisie sans mec cis, féministe et antinucléaire, écoféministe et antinucléaire. Et à un moment donné dans la semaine, il y a eu un atelier où, un peu pour se rencontrer, on devait se situer dans l'espace en fonction de si on avait rencontré Bure ou si on avait été en contact avec Bure, plutôt d'abord via des luttes antinucléaires, ou si on était venu à cette semaine parce qu'on se définissait davantage comme féministe que comme militante antinuc. Et c'était assez intéressant parce que moi j'étais direct allée du côté féministe, enfin genre c'était les luttes antinucléaires, je crois qu'à ce moment-là... Enfin, je ne m'en sentais pas hyper proche non plus, et les luttes écolo de manière générale, pareil. Mais en fait, vraiment, ça parlait plutôt d'écoféminisme que d'écologie queer, les bombes atomiques. Et qu'en fait,
en même temps, c'est un lieu où tu as rencontré plein de personnes queer et où ça. Ça a été quand même assez présent.
Ouais, en fait, c'est ça qui était assez intéressant, c'est que limite, c'était un peu surprenant, c'est que c'était un rassemblement écoféministe, mais qu'il y avait énormément de personnes queer dans ce rassemblement. Et c'est plutôt parce qu'on était queer et qu'on était là que c'est des sujets qui ont émergé et qui ensuite ont continué de nous habiter. Mais oui, carrément, il y avait plein de personnes queer, mais c'était pas forcément un sujet. Il n'y a pas forcément eu d'atelier qui portait directement là-dessus. Et en fait, on était plein de personnes non-binaires, plein de personnes gwyn, plein de personnes pas hétéra.
J'ai passé peut-être plusieurs heures à errer sur leur site avant l'événement. persuadée que j'allais participer à quelque chose de grand et que quoi qu'il arrive, j'en reviendrai changée. Je ne me suis pas trompée. Un rassemblement en mixité choisie anti-nucléaire, ce n'est pas seulement reprendre pouvoir sur ce qui nous échappe et cela qui nous gouverne. C'est aussi s'empuissanter en se réappropriant un langage inclusif, des contre-postures, de la poésie de l'instant et des connaissances fluides, non retransmises éternellement par les mêmes. La grande grange froide qui nous recevait entre autres pour manger se retrouvait emplie d'odeurs fameuses, de ces repas délicieux faits à plusieurs mains dans les conversations passionnantes et le partage d'expériences. On s'est senti moins seul, on s'est lié, on s'est rêvé ne jamais partir et continuer cette respiration conjointe. On s'est aussi fait et faite électron libre pour se mélanger à celles qu'on ne connaissait pas. Nous sommes partis plus nombreuses qu'en arrivant, avec une meute dans la tête, continuant à l'entretenir parfois dans la vraie vie.
C'est des lieux desquels je m'en suis rapprochée, mais via des événements comme ça, via des événements féministes, via des collectifs queer et des groupes de personnes avec lesquelles on avait des vécus communs. Et via ça, je me suis sentie davantage légitime à militer dans des milieux écolos. Et c'était pas le cas avant. Et je sais pas exactement pourquoi, mais peut-être juste que je me suis jamais en fait retrouvée avec des personnes qui me ressemblaient. Et du coup, j'étais genre, bah c'est pas ma lutte en fait. Et puis peut-être aussi, vu que j'ai plutôt vécu en ville jusque maintenant, il y avait ce truc de les milieux écolos que je pouvais voir de loin, c'était plutôt un peu bourgeois, un peu zéro déchet, un peu couple hétéro, voilà. Enfin, et du coup, je me reconnaissais vraiment pas trop là-dedans et c'était vraiment pas trop mes combats, mais tout en étant quand même dans une démarche de je suis anticapitaliste ou forcément je suis écolo. Mais c'était théorique, c'était du discours, c'était pas vraiment dans mon quotidien ni dans les collectifs que je fréquentais. Enfin, dans mon quotidien, un peu, parce que je suis végé depuis longtemps, mais c'est tout, quoi. Mmh. Et toi, du coup, c'est quoi ton rapport à l'écologie, de ce point de vue-là ?
Moi, je suis pas non plus arrivée dans les militants à travers les milieux écolos. J'ai l'impression d'avoir toujours eu une sensibilité autour de ces questions-là, mais pareil, sans savoir trop si j'avais envie de m'y investir ou où m'y investir, enfin, sans avoir vraiment de point d'attache très fort avec ces mouvements-là. Moi, j'ai l'impression que je suis plutôt venue... Pour moi, l'écologie, c'était plutôt être en cohérence avec la manière dont, dans ma vie, entre mes idées et mes actes. Depuis un an, j'habite dans un lieu collectif à la campagne, dans lequel il y a une forte dimension écolo, notamment dans une réflexion sur comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on mange, avec une volonté d'autonomie alimentaire, donc de faire pousser nos légumes, d'être le moins possible dépendant de... des supermarchés, de tout un tas de choses. Et du coup, c'était pas tant en termes de vraiment de lutte, mais juste de, bah, en fait, c'est cohérent pour moi d'habiter dans un endroit où, où j'ai un impact écologique très faible, où il n'y ait pas un lieu qui soit très... qui soit hors de la consommation un maximum, etc. Et aussi, ça a été lié à un besoin, pour ma part, de sortir des villes, et de me rapprocher de la campagne et du coup d'une certaine manière d'espaces type forêt, montagne, etc. Enfin, qui a été un besoin vraiment que j'ai ressenti à un moment de devoir partir des villes et de tous les regards, de toutes les normes aussi que la ville peut imposer de façon très tangible, quoi, parce que le fait d'être toujours sollicité et tout ça, bah, y a toujours le regard de la norme sur toi qui est présent dans la rue, dès que tu rencontres des gens, la peur d'être jugé ou que ça se passe pas bien vis-à-vis du fait que je sois queer et que je me sens pas à l'aise. Et du coup, voilà tout ce poids de la ville, et en même temps, bah, partir de la ville, ça a aussi été quitter la plupart de mes communautés queer, quitter les manifs, les fêtes, tous les endroits où on se retrouve dans des espaces de sociabilité avec des personnes avec qui j'ai des vécus communs, pour me retrouver dans un lieu principalement hétérosexuel. Il y a tout de même des remises en question de certaines normes. Le lieu dans lequel je suis, il y a pas mal de remises en question du modèle du couple, etc. Mais ça reste dans un cadre hétérosexuel. en vivant dans ce lieu où les questions écologiques étaient, étaient posées de façon politique. Je me suis aussi retrouvée à me sentir plus proche de ces questions-là. Et du coup, c'est aussi comme ça que je me suis retrouvée dans des lieux militants, et notamment anti-nucléaires, qui était une question que j'avais jamais vraiment... dont je m'étais jamais vraiment sentie proche, alors que pourtant j'avais grandi dans une zone très nucléarisée. Mais c'était pas des luttes auxquelles j'avais vraiment eu accès. Et du coup, là, cet été, je me suis retrouvée aller dans un camp anti-nucléaire près de chez moi. Et c'est aussi un endroit où, finalement, j'ai pu renouer avec certaines communautés queer, parce que là, dans ce camp-là, il y avait des espaces en mixité choisie, queer. Il y avait des ateliers autour de ces questions-là, et du coup qui ont fait vraiment un pont aussi entre l'écologie et les identités trans, non-hétéro, etc. Ça a été quand même aussi en me rapprochant de l'écologie que j'ai finalement réussi à nouer des liens avec des personnes queer en dehors des villes. Voilà, et du coup aujourd'hui j'ai un réseau qui se construit de personnes queer qui sont beaucoup plus fortement liées à des réseaux militants écolos, anti-nucléaires, hors des villes. Et du coup, ça, c'est un espace, j'ai l'impression, qui est assez rare, parce que en parlant avec d'autres personnes queer des campagnes, il y a beaucoup de personnes qui se sentent isolées, qui n'ont pas trop d'opportunités de faire des rencontres, d'avoir des gens à qui parler et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir la chance là d'avoir trouvé un équilibre entre mes besoins d'avoir une vie en cohérence avec mes idéaux et du coup de plus vivre en ville pour pouvoir avoir des modes de vie sains et simples, et en même temps quand même pouvoir avoir accès à certaines communautés, à des gens avec qui je me sens à l'aise sans avoir besoin d'expliquer des choses, enfin avec une espèce de simplicité dans les relations parce qu'on vit les mêmes choses.
Et juste en termes de rapport à la norme, depuis que tu vis plus en ville, parce que tu disais en ville, le truc d'être sans cesse confronté à un regard social qui était assez pesant, et du coup là maintenant que t'habites plus trop en ville, tu te sens comment par rapport à voilà, une norme cis-hétéro qui reste présente dans un lieu, parce que tu disais que les personnes qui habitaient le lieu étaient plutôt hétéro et...
Voilà, là je vais répondre vraiment juste pour moi, parce que j'ai l'impression que vraiment en fonction du lieu où on habite ça peut être très différent, parce que quand on est à la campagne du coup il y a moins de regards, mais par contre par exemple les gens qui sont vos voisins, vos voisines, les gens du village et tout ça, souvent ça va être des personnes qui peuvent être assez réactionnaires ou en tout cas qui vont pas forcément être des alliés sur ces questions là du coup en fonction de c'est quoi vos liens avec ces personnes là ça peut être plus ou moins difficile. Moi, là où je vis, on est dans un collectif où on n'est pas forcément très très en lien avec les gens des alentours, et du coup, le regard de mes voisins-voisines, je le ressens pas. Ça me protège d'une certaine manière, on vit quand même un peu en vase clos. Après, la manière dont je me sens à l'intérieur de ce collectif, ça évolue beaucoup en fonction de qui est présent, parce que c'est un collectif où il y a beaucoup de gens de passage, qui est très mouvant. Et donc il y a des périodes où en fait il y a plein de personnes qui sont pas cis hétéro, et du coup c'est très différent des moments où par exemple il peut y avoir beaucoup de gens en couple ou en relation hétérosexuelle. J'ai l'impression quand même en vivant ici de beaucoup moins sentir ces regards, et de c'est un endroit où on a assez peu de miroirs et tout ça, et c'est un endroit où je peux des fois oublier les questions de genre pendant quelques temps et arrêter de me demander quelle tête j'ai et quel passing j'ai envie d'avoir. Enfin, c'est un lieu où des fois ces questions-là, j'arrive à ce qu'elles soient plus vraiment un problème, à ce qu'elles soient plus très tangibles. Et en même temps, il y a plein de moments où ici je me sens plus à l'aise parce que je me sens seule, pas forcément compris des autres, que je suis pas toujours sûre que mes pronoms vont être respectés. Je suis pas toujours sûre d'avoir des alliés si... À certains moments, il y a des gens qui ont des propos qui peuvent me faire violence. Ça arrive quand même souvent dans ce lieu-là qu'il y ait des mecs cis qui passent avec lesquels je sois pas forcément à l'aise, avec lesquels... Enfin, des gens qui prennent beaucoup de place, qui peuvent avoir des comportements ou des propos assez sexistes, homophobes ou transphobes. Il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'on a un petit îlot qui me protège de tout un monde, mais qu'il y a des petits bouts du monde quand même, et du coup des normes qui rentrent et ils sont moins durs à appréhender parce qu'on est un collectif et que du coup, c'est des choses qu'on peut poser politiquement. Et je sais que c'est, ça peut être entendu, mais c'est pas toujours parce que c'est entendu que c'est compris. Ce truc-là d'écart de vécu fait que les gens essayent d'être des alliés, mais ne savent pas toujours l'être. Et voilà, du coup, ça pose toutes ces questions de comment est-ce que nous, on s'en sert dans ces milieux écolos. Et donc ça, c'est un type de milieu des collectifs à la campagne. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres espaces. C'est pas du tout la même chose dans les gros assos en ville qui font des marches pour le climat ou des trucs comme ça.
On a deux prismes assez spécifiques sur ces questions. Et j'ai l'impression que c'est intéressant du point de vue de quels outils est-ce qu'on utilise pour tisser ces liens-là et pour se situer, enfin tisser ces liens avec des luttes écolo et se situer à l'intersection de lutte queer et de lutte écolo. Et nous aussi, on s'est rencontrés dans des espaces en mixité choisie. J'ai l'impression que ça, c'est un des autres outils qu'on peut potentiellement utiliser à l'intérieur de collectifs plus grands qui se réclament pas forcément de l'écologie queer directement, mais qui sont des collectifs écolos, qu'on peut grignoter un peu de l'intérieur et on peut être genre, et on existe, et on fait des trucs ensemble, et on a des modes d'action ou des pratiques collectives spécifiques à nos vécus, que ce soit, je sais pas, des pratiques de soins ou des pratiques de lutte. Du coup, ouais, moi, ce terme d'écologie queer, il m'interroge. Et il y a une autre dimension du terme qui me semble un peu importante dans ce qui contient de rapport à la nature, avec un peu des guillemets. Et de c'est quoi les rapports qu'on entretient avec la nature en tant que personne queer. Et je pense que c'est pas forcément trop le lieu ici de questionner qu'est-ce qu'on entend par nature, est-ce que l'écologie c'est la défense de la nature ou pas, de quelle nature. Enfin, c'est des questions qui sont intéressantes de se poser, mais c'est pas forcément trop le lieu. Mais en tout cas, moi il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'il y a une double dimension de à la fois, en tant que personne queer, d'être considérée comme contre-nature ou en tant que personne... qui appartient à des minorités de genre, voilà, de pas rentrer dans une binarité de genre naturalisée où on a tels organes génitaux, enfin on serait supposé avoir tels organes génitaux et du coup tel genre, et du coup de sortir de cette binarité obligatoire, et ben on sort de quelque chose qui est considéré comme naturel, on serait contre nature.
D'ailleurs, parce que la nature c'est vraiment un concept fourre-tout qui est utilisé pour défendre un peu tout et son contraire, et du coup c'est vrai que c'est un mot... qui joue souvent contre nous, justement, avec ce terme de contre-nature. Combien de fois on a entendu ce truc-là, de dire que c'est pas naturel d'être gay ou d'être trans et tout ça, et c'est vraiment des concepts qui ont été utilisés dans la Manif pour tous, qui ont été utilisés à plein de reprises pour justifier des comportements homophobes ou transphobes.
J'ai l'impression qu'il y a ce pan-là, comme ça, de nos vécus, et il y a tout le pan de on est animalisé parce que anormaux, parce que pas humain, parce que des monstres ou déviants ou... Et j'ai l'impression que dans des discours homophobes et transphobes, parfois ça revient, ce truc-là de d'associer les personnes queer à du non-humain et du coup à de l'animalité ou... Enfin, moi, ce truc de qu'est-ce qui est naturel ou qu'est-ce qui ne l'est pas, ça me questionne.
Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es.
es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
En fait, l'argument qui tient, enfin qui dit tel comportement ou tel vécu est naturel et tel autre ne l'est pas, c'est une construction, c'est une construction sociale, c'est un construit. Et les catégories telles que la binarité de genre, l'hétérosexualité obligatoire, c'est des cadres et des catégories rigides qui ont été inventées et imposées de l'extérieur, enfin dans une volonté de domination. En fait. Et je trouve que c'est intéressant parfois de penser à la nature comme un espace où on peut trouver des alliés non humains qui font comme nous, écart par rapport à une norme culturelle, qui font écart, qui font obstacle. Et c'est un peu ce que Suki dit dans sa chanson. Elle parle, par exemple, à un moment de couple de signes gays qui adoptent des œufs abandonnés et les élèvent ensemble. Et elle dit, je sais pas, par exemple, que la moitié du fond marin est hermaphrodite et change régulièrement de sexe biologique. Enfin, et du coup, elle cite ces exemples.
Qui montrent que la nature est pleine de déviances, en fait, où il n'y a pas un modèle auquel se conformeraient toutes les espèces. J'ai l'impression aussi qu'il y a un autre élément qui fait qu'en tant que personne queer, c'est pas forcément évident de se sentir à l'aise dans les espaces écolos pour aller les rejoindre et tout ça. C'est que dans les mouvements écolos, il y a tout un tas d'idées, de mouvements qui peuvent être assez essentialisants en reliant de façon frigide le sexe assigné à la naissance et un tas de représentations. Donc, par exemple, si on est avec un utérus, on va forcément être relié au cycle lunaire et aussi être des personnes maternantes, parce que c'est dans notre nature que d'élever des enfants, de porter la vie. Mais aussi dans d'autres mouvements, il peut y avoir ce truc de retour à la nature et du coup de la nature qui soit le plus simple et l'essence même de l'être humain qui serait juste finalement un couple hétérosexuel avec des enfants. Par exemple, il y a des mouvements comme les mouvements de la décroissance ou d'autres mouvements écolos qui ceux-là sont vraiment contemporains, quoi. Enfin, qui peuvent être très transphobes en faisant des confusions entre les transidentités Par exemple, le transhumanisme. Du coup, tout ce qui va être de la modification corporelle ou de la procréation médicalement assistée, ils vont le considérer comme étant vraiment un signe de la dégénérescence de nos sociétés. Et du coup, que des personnes trans puissent avoir envie de changer leur corps. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose à rejeter. Un de leurs ennemis, ce sont les personnes trans. Du coup, bah forcément... quand il y a ce genre d'idées qui infusent les milieux écolos, bah, en tant que personne queer, c'est pas toujours évident d'avoir envie de les rejoindre.
Et puis c'est des discours qui déshistoricisent beaucoup les vécus trans, ou ça les associe à la modernité, genre ce serait une invention hyper récente et on n'existerait que depuis quelques dizaines d'années, alors même qu'on sait que c'est faux. Et du coup, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a plein de... qu'il y a plein de ponts à faire entre les luttes queer et les luttes écolo, par exemple avec les luttes écoféministes, mais que ces ponts-là, ils peuvent être tissés seulement si on remet en cause assez radicalement les discours transphobes et homophobes qui infusent certaines pensées écolo. Et qu'à ce moment-là, seulement, on pourra créer des alliances avec les luttes écolo, seulement une fois qu'elles seront plus autant porteuses d'essentialisme et de transphobie.
Trans, c'est le nom d'un trou, c'est le nom d'un fossé, un écart. Trans, c'est le nom de la distance qui me sépare d'un ensemble de fictions situées qui ont échoué à traiter mon cas. C'est le nom de l'espace qui est juste là, autour de moi, entre mon corps et le succès de l'hétéropatriarcat. Trans. Ce mot espace prend parfois le rôle d'un pare-feu salutaire, comme une sorte de bouclier magnétique, une technologie post-quantique qui me protégerait d'un milieu inadapté à mes modalités d'existence. Une pokéball autogérée qui par intermittence propulse sa qualité de membrane cellulaire diplomatique en une sorte de devenir muraille un peu flippant. Trans, c'est le nom d'une bouée, d'un satellite, d'un tram qui longe le périph', d'une ceinture d'astéroïdes, de la couche de pesticides sur la peau d'une pomme dubitative. Le nom des douves d'un château fort qui processe sa vulnérabilité. Du corps éthérique de Beyoncé quand elle prend une pause, du bruit de la fête chez les voisines d'en bas, qui fait comme une berceuse techno, un peu cosy. C'est pas moi. Ça me longe. Ça m'entoure. Ça se frotte à moi. Ça m'épouse. Ça me fait frissonner. Ça me tient chaud dans l'eau des rivières au printemps. Ça se déplace à ma surface. Mais ce n'est pas moi. Trans. C'est le nom d'un rapport entre le monde et moi. Le nom d'une balise qui dit « c'est pas par là ». C'est un trigger warning, un panneau sur lequel on a écrit « attention à la marche ». C'est un peu ma meilleure copine, mon ange gardien rémunéré. Une sorte de contrôleuse RATP qui déciderait de ne pas me verbaliser sans dire à ses collègues que j'avais pas de ticket.
Trans, c'est le nom de l'animal qui nage, court. Vol, rampe, avec moi dans la rue, pour prévenir la dame de garder sa question pour elle. C'est le nom d'une technologie de médiation capable de faire raconter des histoires qu'on avait apprises à pas dire à l'école. Je ne suis pas trans dans la forêt.
Je suis trans tant que tu continues à opérer une corrélation entre un appareil génital, un pronom, une géographie des poils et un rôle social. Trans, c'est le nom de ce que tu vois de moi tant que t'as pas appris à me voir moi. C'est un beau nom, un nom de feu et de serpent sacré.
Trans. Trans. C'est le nom de l'écart entre moi et ce qui aurait été plus simple que je sois. Franchement, ce qui aurait vraiment arrangé tout le monde. C'est le nom de la fosse plus ou moins sceptique, installée entre moi et ce qu'on a commencé à me demander d'être quelques mois avant ma naissance.
Trans, c'est le nom de la différence
entre la chose étrange, mouvante et pas finie que je suis et le projet un peu ambitieux de faire coïncider la multiplicité foisonnante des formes de vie animales en deux catégories douteuses. C'est le nom d'un défaut structurel d'imagination. Cette distance, ce trou, cet écart entre la norme et moi n'existe que par rapport à cette norme. Si la norme disparaît, il n'y a plus rien pour être entre, pour être en dehors. Il n'y a plus d'écart, plus rien à nommer. Je ne suis pas trans dans la forêt. Dans la forêt, je suis une chose qui devient d'autres choses, qui meurt, qui parfois chante un peu, pense un peu, parfois danse, parfois pleure, parfois dort. Je n'ai rien à prouver aux politiques sylvestres. On transitionne ensemble. Le devenir forêt du monde, c'est un peu plus qu'un amoncellement de biomasse qui fait respirer une bande d'hétérotrophes en mal d'amour. C'est peut-être, plutôt, une désidentification radicale par les racines. Je suis trans avec toi, tant que t'es pas à la hauteur de l'amitié des arbres. Et j'ai besoin de toi dans ma forêt. Et j'ai besoin de toi dans ma forêt.
On vient d'entendre un texte qui s'appelle « Je ne suis pas trans dans la forêt ». Et je trouve que c'est un texte qui nous montre comment on peut se réapproprier ces espaces naturels en tant que personne queer. Et du coup, penser la nature comme un lieu de repli, un refuge, un endroit où le poids des normes s'efface et où on peut se retrouver aussi soi. Voilà, et du coup, il existe aussi des communautés queer qui s'installent dans des espaces naturels, comme par exemple la Borie dans les Cévennes, qui du coup est un espace occupé où il y a un groupe de personnes queer qui occupent une forêt avec une rivière sur laquelle il y a un projet d'installer une start-up qui développerait des biocarburants à partir d'algues OGM. Et du coup, là, il y a un certain nombre de personnes queer qui vivent là, dans ce petit trou de nature. Et du coup, voilà, ces espaces de forêt et tout ça peuvent être aussi des lieux pour nous où se retrouver, où se ressourcer sans forcément le monde cis-hétérosexuel qu'on subit un peu ailleurs.
C'est des lieux qui donnent de la force et depuis lesquels ensuite il est possible de lutter, genre pour lesquels on peut lutter. Et j'ai l'impression que la Borie, il y a ce double truc de... c'est un espace où c'est possible de faire communauté, mais c'est une zone en lutte qui est perpétuellement menacée d'être expulsée. Et donc à la fois une zone de repli et depuis lesquelles lutter et pour lesquelles se battre. Ouais, j'ai l'impression que le terme d'écologie queer, ça questionne directement les intersections, et en fait c'est un peu ce truc de on essaye de lutter contre toutes les dominations et du coup à se placer à l'intersection. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une dimension qui est vraiment très, enfin principalement anticapitaliste pour moi à l'écologie queer. Enfin, c'est un peu une manière de dire anticapitalisme aussi pour moi, cette formulation là quoi, de se placer à une intersection de lutte.
Parce que c'est aussi pour ça que les mouvements écolos, des fois, ils nous parlent pas. Parce que moi, j'aurais pas pu, je pense, aux gens des milieux écolos qui soient pas, qui remettent pas en cause toutes les dominations. Et du coup, pour moi, l'écologie queer, c'est laisser de la place aux questions queer dans les milieux écolos pour que tout soit en lien. C'est aussi permettre dans les milieux queer que les questions écolos existent. Et que, parce que des fois, dans les milieux queer, il y a un peu cet imaginaire du. Justement de la grande ville qui va être libératrice quand tu sors d'une campagne qui était très réactionnaire. Et moi je pense que ça m'a lassé en ville le fait que les questions écolo ne soient pas prises en compte dans les milieux queer, et ça avait pas non plus de sens pour moi de je me vois pas vivre en ville et aller tout acheter en supermarché, en fait ça me fait chier. Et de c'est des trucs où pour moi c'est pas cohérent, et du coup c'est juste, il y a un truc qui va de soi dans mes ressentis de essayer d'être le plus cohérent possible, et du coup de ça découle l'écologie queer.
Il y a un truc de l'ordre du poids des mots, et que on dit queer pas comme un synonyme de juste LGBTQIA+, et qu'il y a vraiment ce truc là de lutte et de faire écart, et aussi de lutter contre ce qui serait de l'ordre du pinkwashing ou du greenwashing dans un cas comme dans l'autre, enfin ce que tu dis comme ça du capitalisme qui récupère des luttes, que ce soit des luttes queer ou on va mettre en avant des personnes LGBT, être gay friendly et perpétuer les mêmes rapports de domination, de même que on va faire des chaînes de supermarchés bio et ça y est, avoir une façade davantage écolo, tout en gardant exactement le même rapport d'exploitation et de domination vis-à-vis du vivant. Et du coup, pour moi, il y a un peu ce truc aussi là-dedans, dans ce mot de vraiment dire queer en le pensant, et dans un truc un peu offensif, enfin, que ce soit un mot en lutte, et du coup qu'il soit anticapitaliste et contre ces mécanismes comme ça de récupération de nos luttes et de nos revendications. Aussi dans ce terme d'écologie queer, j'y vois un peu comme un élan. Enfin, on disait que c'est un mot qui est assez, assez récent, ou c'est pas en tout cas un concept qui est très, très forgé, très précis, ou qui est en train, en gros, l'éco-queer, qui est en train de se diffuser, mais c'est un peu les débuts encore, quoi, de la manière dont on pense et on utilise ce terme. Et moi, j'ai un peu l'impression de me situer un peu dans cet élan-là de construire ces ponts. Et moi, j'ai un peu l'impression que, enfin, en tout cas, dans les lieux dans lesquels je peux un peu, autour desquels je peux un peu graviter, ce truc que les personnes queer attirent les personnes queer, et qu'on fait groupe et qu'on fait collectif et qu'on s'insère dans des luttes qui n'étaient pas forcément hyper queer auparavant et qui le deviennent potentiellement de plus en plus parce qu'on est là, hein, et que typiquement dans l'antinucléaire, j'ai l'impression que c'est assez le cas où on... Enfin moi en tout cas, avant de commencer à fréquenter des collectifs anti-nuc, j'avais vraiment cette image de l'antinucléaire, c'est principalement des hommes, blancs, cisgenres, pluvieux. Et en fait, de savoir qu'il y a des personnes queer qui s'investissent dans ces luttes-là, qui trouvent du sens, qui font des choses chouettes, ça fait qu'à mon tour, avec d'autres personnes, on a envie de s'y investir, et que du coup, c'est des luttes qui deviennent de plus en plus queer, parce que c'est des luttes qu'on s'approprie. Voilà, on rend de plus en plus queer des milieux écolos, et comment aussi on devient de plus en plus visible, parce qu'il y a ce truc, quoi, que parfois, en fait, on est là, mais juste on sait pas qu'on a des alliés, on n'est pas out.
Mais il y a un côté aussi très performatif où quand on commence à avoir un mot à poser sur... Enfin là, par exemple, l'écologie queer, bah tout d'un coup, ça existe parce qu'on le nomme. Et du coup, à partir du moment où on le nomme, on arrive à voir en fait tout ce qui existe déjà et tous les endroits où nous, ça nous touche, où nous, ça nous fait écho dans nos vies. De bah oui, en fait, on peut pas être écolo sans être queer, parce qu'en fait, on est queer tout le temps et on s'arrête pas d'être queer. Et du coup, de l'importance de nommer ces trucs-là pour bien pousser des coudes et nous faire notre place, et qu'elles restent, et qu'on le théorise, et qu'on le pense. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt en langue anglaise que sont théorisés tous les trucs autour de l'écologie queer, mais c'est quand même en train d'arriver dans nos têtes, dans nos esprits, et du coup, bah, ça laisse la place à ces luttes, et ça les fait vivre.
Et dans ce que tu dis de « on est queer tout le temps », il y a aussi, j'ai l'impression, dans l'écologie, ou en tout cas dans le pan de l'écologie qui me parle, toute la dimension de justice sociale. Je sais pas trop, mais un peu cette idée vaguement que, en fait, si t'es trans, précaire, solo, isolé, et ben tu vas... Enfin, t'as peut-être un peu moins de réseau de solidarité que des personnes davantage... dans la norme. Et aussi parler d'écologie queer, c'est peut-être penser des réseaux de solidarité en lien avec ce truc de mine de rien, on est dans un monde qui est en train de se casser la figure, et comment on se soutient un peu les uns les unes les autres, comment on fait communauté à l'intérieur, d'une urgence climatique ou d'un changement climatique et enfin qu'il y a aussi un peu ça dans l'écologie quoi.
Mais c'est clair que cette question d'urgence et de précarité elle est prégnante et les mouvements écolos ils sont souvent considérés comme des mouvements un peu bourgeois et tout ça, c'est parce que en fait on sait que quand tu luttes juste pour exister, t'as pas forcément l'énergie de en plus lutter pour la planète qui peut paraître parfois un horizon lointain ou en tout cas une lutte où on se sent pas forcément concerné dans ses tripes quoi. Et du coup que les milieux écolos soient un lieu d'accueil aussi pour les personnes queer, un lieu de ressources, de solidarité, ça permet aussi que toutes ces personnes là en fait qui galèrent dans leur vie pourront trouver un espace où s'épanouir et du coup ça c'est aussi une manière de créer des sociétés plus viables, plus justes, plus et tout ça. Et du coup je trouve ça important que y ait ces mains qui soient tendues pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent se sentir à l'aise dans ces espaces et c'est vrai que souvent ça peut passer par des espaces non mixtes et tout ça.
Moi j'ai l'impression que dans les milieux queer il y a très fort cette idée de faire communauté et de faire partie d'une communauté et que je me reconnais pas du tout dans ces narrations d'exode rural, c'est pas comme ça qu'on dit, de personnes qui
de retour
à la terre, voilà, de personnes qui quittent les villes et qui vont s'installer en autosuffisance et je vais avoir mon jardin en permaculture, ma maison, et comme ça si jamais il y a un coup dur ou une pénurie ou je sais pas quoi, je saurais survivre parce que avec moi et ma famille à la limite, on aura déjà notre jardin et on va être à l'abri des pénuries qui pourraient frapper des villes par exemple. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu entendu ces histoires de allez moi je me casse et je vais me trouver un havre de paix de manière hyper individualiste. Et du coup j'ai l'impression que de base en fait dans le fait d'être queer il y a déjà l'idée de faire communauté. Ça veut dire que c'est question de comment est-ce que on habite, quel habiter est-ce qu'on choisit, et c'est quoi notre rapport à la terre, comment est-ce qu'on s'y ancre, comment est-ce qu'on la cultive, etc. C'est déjà des questions qui sont posées collectivement par la dimension communautaire quoi, du queer.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur l'écologie queer. On espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière ce terme. Nous, on y a vu une tentative de faire une place aux personnes queer dans les mouvements écolos existants, en les débarrassant de leurs aspects transphobes et hétéronormatifs. Mais aussi une manière de créer nos propres espaces de lutte pour le vivant et les terres. Une manière de lier, de faire des ponts, pour renforcer nos solidarités et se donner de la force. C'est un concept qui reste à explorer, à penser et à s'approprier.
Hé, espèce de pédale, t'es un garçon ou une fille ?
Il n'y avait pas moyen de les éviter sur la petite planète qu'était la cité. Leur refrain injurieux m'accompagnait longtemps après que je sois passée. Le monde me jugeait durement, et c'est ainsi que je me suis dirigée, ou bien que j'ai été poussée, vers la solitude. La voie rapide passait entre notre cité et un immense champ. Traverser cette route, c'était enfreindre les règles. Il n'y avait pas beaucoup de circulation dessus. Il aurait fallu rester longtemps en plein milieu d'une voie pour se faire écraser. Mais je n'étais pas censée la traverser. Je le faisais quand même, et personne n'avait l'air de le remarquer. Je me suis frayé un chemin au milieu des grandes herbes brunes qui bordaient la route. Une fois que je les avais passées, j'étais dans mon monde.
En allant à l'étang, je me suis arrêtée pour voir les chiots et les chiens dans les chenilles extérieures, derrière la SPA. Les chiens ont aboyé et se sont dressés sur leurs pattes arrière quand je me suis approchée de la clôture. Je leur ai fait « Chut !» Je savais que personne n'avait le droit de venir là, derrière. Un épagneul a passé son nez à travers la barrière fermée par une chaîne. Je lui ai gratté la tête. je cherchais des yeux le fox terrier que j'aimais bien. Il n'était venu, lui, qu'une seule fois jusqu'à la clôture pour me dire bonjour, en reniflant prudemment. D'habitude, peu importait la façon dont j'essayais de l'amadouer, il gardait la tête posée sur ses pattes, me regardant de ses yeux tristes. J'aurais bien voulu le ramener à la maison. J'espérais qu'il partirait avec un enfant qui l'aimerait.
« T'es un garçon ou une fille ?» j'ai demandé au cabot. Quand j'ai vu le type de la SPA, il était trop tard.
Hey, « Hé petit, qu'est-ce que tu fais là ?»«
Attrapé. »« Rien. Je ne fais rien de mal. Je cause juste au chien. » Il a fait un petit sourire.
« Ne mets pas tes doigts dans le grillage, petit. Il y en a qui mordent. »
J'ai senti le bout de mes oreilles rougir. J'ai hoché la tête. Je cherchais le petit avec les oreilles noires. Est-ce qu'une gentille famille l'a pris ? L'homme a froncé les sourcils un instant, puis il a dit calmement.
Ouais, et il est très heureux maintenant.
Je me suis dépêchée d'aller à l'étang pour y attraper des têtards dans un pot.
Je me suis accoudée par terre pour regarder de près les petites grenouilles qui grimpaient sur les cailloux inondés de soleil. Un grand corbeau noir a tourné au-dessus de moi, dans les airs, avant de se poser sur une pierre, pas loin. On s'est observé en silence. Hé, hey, corbeau, t'es un garçon ou une fille ? J'ai rigolé et je me suis allongée sur le dos. Le ciel était d'un bleu profond. Je m'imaginais que j'étais couchée sur des nuages de coton blanc. La terre était humide dans mon dos. Le soleil était chaud, l'air était doux. Je me sentais heureuse. La nature me serrait contre elle et semblait ne me trouver aucun défaut.
En revenant des champs, je suis tombée sur la bande. Ils avaient trouvé un camion laissé ouvert dans une pente. Un des garçons les plus âgés avait débloqué le frein à main et faisait courir deux petits de mon quartier devant le camion en train de rouler.
« Jessie, Jessie !»
me narguait-il en courant vers moi.
« Brian dit que t'es une fille, mais moi je crois que t'es une tapette. »
Je n'ai rien dit.
« Alors ?» « C'est quoi ?»
J'ai battu des bras en faisant « Je riais. »
Stonebridge Blues, Leslie Feinberg.
C'était Rouille et Broussailles pour Radio Radieuse. Dans cet épisode, vous avez entendu un extrait de « Être une bombe dans un monde atomique » d'Aliothéose. Vous pourrez retrouver l'épisode en entier et puis ses autres émissions sur dequoimordre.noblogs.org. Et puis, Je ne suis pas trans dans la forêt, de Lou, publié dans la revue PD, la chanson Queerotière de la rappeuse Suki, et un extrait du deuxième chapitre de Stonebridge Blues de Leslie Feinberg.
Pour finir l'émission, nous vous proposons un reportage, réalisé par une copaine radieuse dans une bibliothèque féministe à Grenoble.
Lundi soir, 16h. En 10 minutes de vélo, je suis arrivée aux deux chemins des Alpins, devant la BAF, un centre social autogéré et anticapitaliste. Je m'apprête à entrer dans la bibliothèque féministe de Grenoble. Depuis l'extérieur, seul un panneau posé au sol en signale l'existence. Ça fait 10 ans que la bibliothèque féministe a posé ses valises ici. Avant cela, elle a d'abord été hébergée dans des squats, puis dans des appartements. Elle a pris de l'ampleur au gré des contributions de celles et ceux qui l'ont faite vivre. Aujourd'hui, cela représente, d'après le site de la BAF, des tonnes de bouquins, littéralement, mais aussi des documents sonores, des thèses féministes, des brochures, le tout classé par thématique et période sur les étagères qui font face à la porte d'entrée. À la bibliothèque féministe, vous pouvez aussi savourer un thé à la menthe, participer à une discussion sur les relations amoureuses non monogames dans la science-fiction, ou tomber en nostalgie devant les fiches de prêt cartonnées et colorées qu'il faut remplir pour emprunter un livre. Vous l'aurez compris, c'est une bibliothèque assez particulière. Visite sonore et subjective avec Alice, la première à parler, investie dans le fonctionnement de la bibliothèque depuis quelques années, et Marina, la seconde, dans le collectif depuis plus de 15 ans. Les discussions se passent dans la petite salle du premier étage, depuis laquelle les conversations de la bibliothèque nous parviennent légèrement étouffées. Elle me partage tout d'abord ce que c'est pour elle une bibliothèque féministe.
Pour moi, une bibliothèque féministe, c'est un espace ressource en termes humains et en termes d'ouvrages. Ressources, ça veut dire que c'est un endroit où on peut trouver des choses, on peut trouver des informations, on peut rencontrer des personnes, on peut découvrir des nouveaux auteurs, autrices. Pour moi, la bibliothèque féministe, c'est un endroit où se rencontrer. Enfin, c'est un peu idiot, mais la plupart de mes colocs, je les ai rencontrés par la bibliothèque. C'est-à-dire, c'est des personnes qui arrivaient sur Grenoble ou qui avaient besoin de changer d'endroit et qui arrivaient à la BAF, qui annonçaient ça. Et puis, nous, c'était un moment où on cherchait des colocs. Donc, c'est aussi un espace de réseau d'entraide, en fait. À la bibliothèque, on peut aussi participer ou lancer des initiatives autour de manifs, autour de slogans, ce genre de choses, quoi.
C'est vrai que c'est peut-être pas juste un endroit où on vient emprunter des livres ou en consulter, même si c'est beaucoup ça. C'est quand même aussi un endroit où on vient aussi vivre un espace féministe. Et cette bibliothèque, d'ailleurs, elle a été pensée quand même aussi comme un endroit d'accès à un certain milieu féministe. Elle a été montée par des militantes féministes et je pense qu'on a voulu se dire aussi, tiens, ça va faire une porte d'entrée, quoi. En fait, on va pouvoir venir à la bibliothèque féministe aussi pour rencontrer des militantes féministes.
Une rencontre facilitée par le fait qu'hormis le premier lundi du mois, les permanences de la bibliothèque sont en non-mixité entre meufs, gouines et personnes trans. C'est-à-dire qu'elles sont réservées aux personnes qui se définissent de cette manière-là. Marina nous explique pourquoi.
Et cette affirmation-là d'avoir besoin d'avoir des espaces à nous, des espaces où on peut développer nos pensées, nos réflexions sans les oppresseurs pour le faire très vite et à gros traits. Hein. Ben, moi, ça m'a toujours semblé important. Et donc, oui, c'est une pratique, cette pratique de la non-mixité que moi, j'ai toujours eue dans mes pratiques féministes, en fait, et qui me semble nous permettre de développer une autonomie. Et moi, il me semble que l'autonomie, c'est quand même une clé d'émancipation assez très importante. Se sentir autonome, se sentir indépendante, c'est très important pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut dans la vie avec qui on veut, et se sentir forte pour pouvoir justement faire ce qu'on veut avec qui on veut. Et c'est pour ça que c'est pas juste un espace de bibliothèque, mais aussi un espace de vie, de partage, de rencontre. Pendant quelques années, il y a eu aussi des permanences, les monstrueuses permanences, ça a duré quelques années, et c'était des permanences en plus qui étaient le mardi, et qui étaient en mixité choisie transpédéguine. Et donc il y avait la volonté quand même aussi de mettre en avant des espaces aussi dans d'autres formes de non-mixité, moins hétéronormées, moins hétérocentrées. Ça a été des grandes réflexions depuis des années qui doivent continuer parce qu'il y a encore des problèmes. C'est encore compliqué à plein de moments. Voilà, on est vraiment... C'est une bibliothèque qui est vivante.
Cette bibliothèque est aussi particulière par le choix des ouvrages qui la composent et la manière dont les décisions à ce sujet sont prises. Marina et Alice nous en parlent.
Au départ, cette bibliothèque, c'est quand même une mise en commun de nos livres personnels. Hein. C'est une bibliothèque militante, c'est une bibliothèque autogérée, c'est une bibliothèque qui est à la base, vraiment, on est plusieurs féministes à se dire on va mettre en commun nos bouquins pour les partager, pour faire vivre les idées féministes. Et donc, bon, je veux dire, c'est pas une sélection de livres au départ, c'est nos livres à nous, quoi. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous brasse. Et au fil des années, et puis de l'agrandissement de la bibliothèque, il a fallu faire des sélections, il a fallu des fois enlever des livres, donc ça anime des débats, mais il faut voir les débats que ça anime entre nous, hein. Ils sont des fois costauds, parce que chacune défend son livre, parce qu'il y a des livres, notamment dans les romans, il y a des choses très subjectives, donc qu'est-ce qui fait qu'un roman nous donne de la force, qu'est-ce qui fait qu'on trouve un roman intéressant, un roman distrayant par exemple, il y a des romans dans la bibliothèque qui n'ont pas forcément un discours féministe très clair, mais qui sont distrayants, avec effectivement des héroïnes qui s'en sortent bien, et ils ont leur place, sans avoir forcément un discours féministe hyper construit. Et on peut débattre longtemps de quel livre a la place dans la bibliothèque. Du côté théorique, on a alors des débats des fois âpres, même est-ce qu'on donne de la place dans cette bibliothèque à des auteurs avec lesquels on n'est pas d'accord. Le féminisme, qu'on devrait dire les féminismes, sont traversés par des débats théoriques, politiques énormes depuis toujours, sur tout un tas de sujets. Certains sujets sont extrêmement clivants. Nous, on se retrouve plutôt dans certaines tendances. Aujourd'hui, en 2021, on dirait féminisme intersectionnel, antiraciste, anticapitaliste. On pourrait dire tout un tas de mots.
En littérature, on pourrait dire qu'est-ce qui serait notre critère, c'est... c'est d'avoir des héroïnes ou des héros, en tout cas des personnes qui sont en place de protagonistes, qui ne sont pas l'homme blanc de classe moyenne qui se plaint que sa femme n'est pas sympa, comme c'est un classique. On a envie de présenter des personnes à qui il arrive des choses dans leur vie, et ça ne veut pas dire qu'il arrive toujours des choses très simples ou très faciles en fait. On a plein de livres qui parlent de violence, qui parlent d'oppression. Et du coup, c'est pas ce que... Des fois, t'as pas envie de lire ça, quoi. Donc, c'est pas pour dire... Il peut rien arriver dans la vie des personnages, mais il faut qu'il et elle arrivent à en faire quelque chose qu'on trouve... En faire quelque chose. Parce que c'est quand même un classique dans la littérature, notamment écrit par des hommes, que, hop, là, le personnage... Bah, tiens, il lui arrive ça, elle subit un viol, et puis, hop, il se passe plus rien ensuite. Il y a rien qui est fait par rapport à ça. Et c'est quand même assez régulier comme ça de faire vivre ou subir des choses à ces personnages féminins et puis ensuite il se passe plus rien d'autre, quoi. Voilà. Et des fois c'est aussi d'autres personnes qui nous font des retours en disant bah tiens, là il faut qu'on bouge. Ou ah, vous promouvez telle autrice, mais alors telle autrice là, il y a des choses qui sont en train de remonter par rapport à elle sur des questions de violence intrafamiliale et du coup peut-être c'est pas correct de la mettre autant en avant. Et du coup, ensuite, bah, on échange et puis soit on prévient dans les entrées des livres, des fois on fait ça, soit on les enlève. Parce que de toute façon, il y a tellement de choses qu'on n'a pas assez de place en fait pour tout rentrer, donc des fois on fait du désherbage.
C'est des livres, des fois, qui sortent de la bibliothèque, qui re-rentrent. Enfin, voilà, c'est très vivant comme bibliothèque, en fait.
T'as lu la Ursula Le Guin ? J'en ai pas lu beaucoup. Il y a très longtemps, j'ai lu Les Terres-Mères, qu'est-ce que j'ai lu.
Okay. Et t'es plutôt nouvelle ou roman en ce moment ? Tu veux un truc qui dure longtemps ou tu veux plein de choses différentes ?
J'aimerais les deux, je veux tout. Parce que
alors, dans les
quand ça marche, j'adore que ça dure longtemps. Et en même temps, là, comme je suis un peu fatiguée vite, c'est cool d'avoir aussi des nouvelles, tu vois. Les deux me vont.
Okay. Donc là, on pourrait prendre l'anniversaire du monde. Donc c'est Ursula Le Guin, c'est sur différentes planètes. C'est pas évident de rentrer dans toutes les nouvelles comme ça.
Retour en bas, dans la bibliothèque. On y découvre les spécificités des livres de science-fiction d'Ursula Le Guin, juste avant d'être emporté par une discussion avec une lectrice qui nous explique en quoi, pour elle, l'imaginaire porté par les livres a pu façonner ses manières d'être et continue à le faire.
Depuis un an, je lis que des livres écrits par des femmes, parce que j'ai une formation de lettres, enfin une formation classique en lettres modernes, et j'ai tous mes écrivains préférés, c'était des hommes. Et vu que je suis une meuf, je me suis dit que c'était un peu nul. Et j'ai commencé à en lire, et en fait, j'étais un peu perdue au début dans les bibliothèques classiques, et du coup, là, c'était waouh, il y a presque que des femmes, et puis c'était des noms que j'avais commencé à entendre dans des lieux où j'avais passé du temps.
Pourquoi c'est important pour toi de lire des livres qui sont écrits par des personnes autres que des hommes ?
En fait, je suis obsédée par les imaginaires et ce que font les imaginaires sur ce qu'on vit, la manière dont on le vit. Et forcément, en fait, si tu lis que des... Moi, j'ai vraiment grandi avec des bouquins. Toute ma vie, ça a été beaucoup de lectures. Et du coup, si je lisais que des livres écrits par des mecs, j'avais un regard sur moi et une construction de ce que je suis d'un point de vue de mec. Et je l'ai vraiment senti, puisque pendant un moment, chaque fois que je pensais à une relation amoureuse, je pensais à une relation du 19e siècle, donc c'est un peu difficile à vivre une relation équilibrée fondée sur le 19e siècle. Et chaque fois que je me voyais en tant que femme, eh ben, j'avais des mots qui me venaient de romans. Et en fait, c'est pas sain. En lisant des livres écrits par des femmes, eh ben, j'ai réussi à reconsidérer mes expériences et reconsidérer ce que j'étais. Et pour moi, c'est hyper important. Et puis, j'ai aussi découvert des livres d'une qualité incroyable. Vraiment trop bien. Ben, c'est que je me dis que c'est toujours dans les 10 dernières minutes que je trouve un bouquin. La plupart du temps, c'est plutôt des échanges. Et je crois que j'aime bien que la littérature et la lecture, ça soit pas une activité solitaire. Tout comme l'écriture, j'aime bien que ça devienne collectif à un moment. Et j'adore parler de romans. Et je trouve que c'est un chouette moyen de faire du lien avec des personnes.
Sur le chemin du retour, alors que je marche à côté de mon vélo, je ressasse les propos des personnes rencontrées. Et surtout le conseil qu'Alice m'a prodigué pour vous toutes et tous avant de partir. N'hésitez pas à monter des bibliothèques féministes, ça crée de belles choses. Il suffit de trouver des personnes avec qui le faire et un lieu. Et puis, au pire, on peut commencer dans son grenier. Très belle soirée à tout le monde.
Vous pourrez retrouver les références des textes et des musiques de cet épisode sur radioradieuse.noblogs.org. À bientôt!